Vous écoutez RTL.
On refait le monde
dans RTL Soir
avec Marc-Olivier Fogiel.
9h18 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la journaliste Annie Lemoine. Bonsoir Annie.
Bonsoir.
L'éditorialiste du Figaro qui est avec nous, Yvan Rioufol. Bonsoir Yvan.
Bonsoir.
Le fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre Malafaille.
Bonsoir à tous.
Et Jean-Claude Dacier de Valeur Actuelle. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Dans On refait le monde, les hommes et la femme sont brillantes. Et non, je n'ai pas fait une faute d'accord. 314 professeurs s'engagent, vous le savez, dans une tribune publiée sur le site slate.fr, à ne plus enseigner la règle qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin au nom du combat pour l'égalité homme-femme. Pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, la langue française n'est pas à instrumentaliser pour des combats aussi légitimes soient-ils. Et pour vous, cette grammaire qu'on appelle donc inclusive, vous choque-t-elle ou vous soutenez donc sur les réseaux sociaux, Benoît, en 280 signes hein, maintenant, puisque hélas, c'est plus 140 par tweet, c'est 280 maintenant. Donc, l'occasion de dire d'encore plus de conneries.
Je prends que les cours quand même. Je prends que les cours. C'est pas
ça. Je dis pas pour vous, hein, Benoît.
Non, mais là,
mais bon, non, pas pour vous, évidemment.
Hein, non, mais là, avec cette histoire, on touche la corde sensible, hein, ou plutôt l'accord sensible, comme dit Jika. D'abord, les anti, Albert Brocard, ses fonctionnaires qui décident d'agir à leur guise et le gouvernement qui ne réagit pas. Ses enseignants ne doivent plus avoir le droit d'enseigner. C'est une prise d'otage idéologique des élèves, lance carrément Tiffany. Et Michael d'insister, ce n'est pas aux professeurs de décider s'ils appliquent ou non l'écriture inclusive ou si le masculin doit l'emporter. C'est au ministre. Et il a dit non, comme l'Académie française. Oui, l'Académie française parle de péril mortel, mais bon, vu leur âge, pour eux, même les escaliers sont un péril mortel, ricane Thomas. Marco n'est pas d'accord. Il estime que c'est semer la confusion lors de l'apprentissage et s'attacher à la forme plus qu'au fond, au nom d'un féminisme radicalisé. Oui, notre langue est déjà inclusive. En français, les femmes sont des hommes comme les autres. C'est super, pourquoi changer ? Demande Marie-Hélène. Luc Ferry aussi, est remonté, qui tweet « On aimerait savoir qui est le crétin ou la crétine qui a inventé cette écriture inclusive imprononçable, en rupture avec toute la littérature. » Ce tweet est rédigé en écriture inclusive, lui répond déjà John. Et là, Elia de faire remarquer que ce crétin de Racine appliquait l'accord de proximité. Cette crétine de Madame de Sévigné s'élevait contre la masculinisation de la langue. Mais j'imagine qu'il et elle étaient en rupture avec toute la littérature. Est-ce que quelqu'un a un argument contre l'écriture inclusive autre que « c'est nouveau et j'y comprends rien », s'agace Plume. J.O. défend l'idée qu'il faille réfléchir collectivement à un moyen d'améliorer la langue qui n'est ni sacrée ni immobile. Fab enfin lâche. Et si ça vous gêne vraiment, je suggère qu'on passe tout au féminin et on dirait que le masculin est inclus dedans.
Annie Lemoine, allez, la femme du plateau.
Enfin,
la femme du plateau.
Enfin, depuis le temps qu'on attendait ça.
De quoi ? De vous entendre ou à la grammaire inclusive ?
Un peu les deux.
Est-ce qu'elle pourrait nous parler en écriture inclusive ?
Donc c'est la révolution. C'est la révolution ce soir.
Vous avez Virginie qui est à vos côtés, qui
peut-être
va peut-être vous soutenir.
Mais moi je soutiens Annie.
Ah, vous soutenez
deux femmes dans le studio. Le masculin ne va donc plus l'emporter sur le féminin. Et pourquoi pas, puisque la langue doit être le reflet de l'époque, de la société, de ce que vous voulez. Mais enfin, bon, ça a un sens que ça se traduise dans la langue. Mais simplement, comment on fait ? Et comme il n'y a pas de règle pour l'instant bien établie, c'est là qu'est le problème. Vous savez qu'il y a trois possibilités, disent les professeurs, la consigner, la pétition, et qui ne veulent
pas
plus.
Tout,
donc,
pas toutes des femmes, hein, d'ailleurs.
Que les... Oui, non, non, bien sûr.
Non, non, mais je le précise. Ouais. Non, mais
ce serait suspect, sinon. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, comment on accorde ? Alors, rapidement, hein, règle de proximité, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Si c'est hop, 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 on accorde avec la femme, c'est la dernière. Règle de majorité. Alors,
donc,
là, c'est plus,
les
c'est
hommes plus... et les femmes sont belles, donc. C'est ça, le dernier. Oui, oui.
Ça dépend de la règle.
Oui, non, mais
règle,
c'est ça, pour illustrer ce que vous venez de dire.
Absolument. Règle de majorité, on compte les hommes, on compte les femmes, s'il y a plus d'hommes que de femmes, et on accorde au masculin l'inverse. Si c'est là. Bon. Mais alors, c'est plutôt des maths que de la grammaire. Et enfin, au choix.
Et
là, c'est le bazar.
Et le soleil et la lune. Le soleil et la lune, ils sont beaux, ils sont belles.
Ça dépend de la règle que vous appliquez. C'est ce que j'explique. Non, voilà. Alors, quelle règle applique-t-on ? Et comme on ne peut pas se mettre d'accord sur la règle pour l'instant, c'est un mélange de do-it-yourself et de yes, you can de la grammaire, donc c'est le bazar.
C'est enfin, espagnol.
Je peux vous dire que moi, j'envie ces petits écoliers qui ne sont pas comme nous et qui ne vont pas être les traumatisés du stylo rouge et puis des zéros à la dictée, quoi. C'est merveilleux. Pour eux, tout est possible.
Vous avez l'air d'adorer Yvan Rioufol. J'ai l'impression que votre vie est révolutionnée grâce à Annie Lemoine et à ses professeurs.
Ah ouais, vous voyez tout en moi. C'est vraiment terrible. Je ne peux rien masquer de mes sentiments. Mais il faut peut-être le présenter d'abord dans le contexte plus général, qui est quand même celui d'une offensive tous azimuts aujourd'hui, du néo-féminisme. Alors ça va commencer par balance ton porc. Ça peut être maintenant balance ta grammaire, pourquoi pas ? Parce que ça relève un petit peu de la même dialectique qui est aujourd'hui de vouloir casser ce monopole, cette.
Ah, comme vous y allez, entre balance ton porc et balance ta grammaire.
suprémacisme.
J'allais vous suivre, mais plus totalement.
Mais si, parce que dans ces deux cas-là, c'est le suprémacisme du mal qui est à bafouer, qui est à bannir. Et alors, naturellement, il y a un excès de l'un à l'autre, bien entendu. C'est pour ça que je fais ce raccourci. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a quand même une idéologie là-dedans dans laquelle la grammaire n'a plus rien à voir, bien entendu. Et d'autant que vous avez cité le chiffre de 314 enseignants, c'est-à-dire que c'est ridiculement faible. Et d'ailleurs, ce sont des enseignants qui se mettraient en faute s'ils avaient à appliquer cette grammaire dont ils ont décidé qu'elle s'appliquerait, car ils peuvent très bien être poursuivis par des parents d'élèves ou des élèves pour non-application du programme. Donc, on est dans une idéologie qui devient folle, de mon point de vue, mais amusante en même temps. Mais cela dit, ça pose tout de même un problème, en effet, qui est celui de savoir si il faut encore enseigner aux enfants, comme on vous l'a enseigné, que la formule du masculin qui l'emporte sur le féminin. Et là, en effet, cela recèle, malgré tout, une sorte d'injustice, d'infériorité.
Eh oui, pourquoi ? Moi, je vous suis, finalement.
Je pense qu'il faut changer cette formule. Voilà. Et changer cette formule, vous avez beaucoup de grammairiens qui la proposent, qui est de dire que le masculin est neutre. C'est-à-dire que le masculin neutre, ça veut dire que vous pouvez continuer à dire les droits de l'homme parce que les droits de l'homme englobent la femme, ou les Français parce que les Français englobent...
Le droit des humains.
Les Français englobent les Françaises, et qu'à partir de cette règle-là, de dire que le masculin est neutre, vous simplifiez...
Oui, mais dans une phrase, les hommes et les femmes sont...
Eh bien, vous simplifiez considérablement les formules, et vous ne parlez plus que des Français, vous ne parlez plus... Alors, De Gaulle, je sais bien que De Gaulle avait commencé avec Françaises, Français, puis ensuite, maintenant, c'est Macron avec celles et ceux, mais ça devient un petit peu lassant, et d'abord, ça écorche l'oreille. Et je pense que cette formule-là, si elle pouvait être acceptée par tous...
Mais non, on n'a pas envie que les hommes soient neutres.
Mais pourquoi pas? Si vous êtes en contradiction, parce que vous compliquez.
Ah non, égalité, parité, tout ça, c'est bien.
Déjà, une grammaire qui se féminise également de plus en plus. On peut dire maintenant une sapeur-pompière, pourquoi pas. Et donc, on voit bien qu'on tombe dans un ridicule qui...
D'ailleurs,
vient...
la grammaire.
Oui, mais on tombe dans un ridicule, dont il va falloir poser des limites. Et je propose cette limite-là, qui est celui de considérer que le masculin serait neutre.
Alexandre,
J'attends de voir ce que ça va donner en poésie. Ça va être intéressant. Et puis également, dans le domaine de la francophonie, ça pose aussi quelques questions. Quand on va voir en Afrique, avec tous nos pays amis francophones qui parlent le français, comment ils vont faire? Ça pose comme de vraies questions. Je pense que c'est une vraie question, effectivement, de voir comment on peut trouver par tous les moyens le fait de rétablir l'égalité. On est d'accord. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à la langue, et de manière aussi précise, et en plus avec des initiatives qui sont quand même très perturbantes pour les enfants? J'imagine les enfants de ces 314 enseignants ou enseignantes qui se retrouve avec tout d'un coup un français particulier. Déjà qu'il est difficile à écrire. Même nous, si un jour ça devenait la loi, va falloir s'y mettre. On va mettre un certain temps à se mettre au niveau. Donc je crois qu'à un moment donné, en France, il y a une loi. Là, il y a la loi. La loi, on la respecte. Quand on ne la respecte pas, on est sanctionné. Là, en l'occurrence, il y a une loi qui est que jusqu'à présent, la langue française s'écrit d'une certaine façon. Qui a un débat pour réfléchir, pourquoi pas, à des évolutions, à dire, tiens, finalement, le masculin, le neutre, etc. De trouver une manière intelligente de faire les choses. Pourquoi pas? Mais en attendant, c'est un débat, mais on ne passe pas à l'acte dans les écoles.
Mais que le débat soit posé.
Non, mais on reçoit des trucs absolument aberrants. On voit le Conseil économique et social maintenant. On reçoit des mails, on reçoit des trucs, etc. Alors, tout le monde y va de son petit couplet. Les uns sont comme si les autres sont comme ça. On ne sait même plus comment répondre. Moi, je reçois des réponses à des imams. Dis, vous ne m'avez pas répondu en écriture inclusive, je ne vous parle plus. On marche sur la tête.
Non, mais là, changer de contact.
Je les appelle, évidemment.
Non, mais c'est du gaucho-féminisme.
Mais bien évidemment,
ces jeunes gens et jeunes filles dont font partie les 314, professeurs, professeuses, puisqu'il faut dire, font évidemment partie, mènent un combat politique, qui est un combat effectivement...
De gauche, donc.
Clair, c'est du gaucho-féminisme qui se préoccupe de tout dans le féminisme, sauf des choses qui intéressent vraiment les femmes. Le combat notamment au quotidien, les difficultés notamment salariales, mais ça, ça ne les intéresse pas.
Ça peut les faire.
Jean-Claude, ça peut les faire.
J'ajoute, moi qui suis un vrai féministe, dans mon couple, j'ajoute que l'accord de proximité...
Moi, je le suis, mais pas dans mon couple.
Que dit Madame Dacier ?
Avec les réserves de mon voisin, la poésie et quelques autres formules, la lune, le soleil, l'accord de proximité en lui-même ne me choque pas.
Ah, ça vous choque pas, ça, l'accord de proximité?
Que les hommes et les femmes soient beaux ou soient belles.
Ah, mais vous êtes un progressiste, Jean-Claude.
Mais le progressisme, mes chers amis, est à droite. Il est sûrement plus à gauche. La gauche recule, la droite avance. Ça me choque pas. Ça me choque pas.
Et on parlera de le beauté.
Simplement,
parce que maintenant, il faut
voilà,
le beauté, le gazelle, le idole, comme on fait.
Simplement constatons que l'écriture inclusive, d'abord quand c'est écrit, c'est absolument infaisable et impossible. Ça va évidemment, comme tu l'as dit, semer et jeter quelques confusions dans nos chères têtes blondes, dont 15 à 20% sortent déjà du système scolaire en sachant à peine lire et écrire. Ça va pas arranger les choses.
Pas toute blonde, hein.
C'est tout à fait évidemment. C'est haut de gamme. Dans les familles, on va pouvoir expliquer les subtilités, les différences. Donc, dans les familles qui savent un petit peu déjà
parler. Vous voyez
que
ce n'est pas de gauche, alors, puisque ça crée des inégalités.
Bon,
alors.
Donc, voilà. Ce qui choque beaucoup, c'est les 314, 315 professeurs qui font un bras d'honneur au ministre qui a dit non. Les académiciens français, bon, à la limite,
ils
ont dit non. Donc, tout le monde dit non. Et on est bien dans un combat politique qui s'exprime dans l'éducation nationale.
Oui, mais un combat,
à travers ça,
vous avez aimé ce débat
ridicule, mais c'est ainsi. C'est la mode, c'est la modernité.
Vous avez aimé ce débat, il reprend ou elle reprend dans un instant.
RTL Soir jusqu'à 20h,
on refait le monde, Marc-Olivier Fauchel.
Avec Annie Lemoine, Yvan Youfol, Jean-Claude Dacier, vous, Alexandre Malafaye, encore quelques mots donc, sur cette grammaire inclusive. Vous voulez carrément sanctionner ces profs qui proposent de l'appliquer.
Ah bah oui, il y a la loi.
C'est logique.
Il y a la loi, à un moment donné on l'applique, tout le monde la respecte. La loi du parler correctement quand on enseigne le français doit être respecté, il y a un programme, il y a des normes, ça a été défini, ça a été travaillé, il y a des académiciens, et que je sache, un académicien est quelqu'un qui a réfléchi à ces questions-là, mais c'est comme si tout d'un coup les plombiers décidaient d'eux-mêmes, alors qu'il y a des normes, il y a des règles d'urbanisme, etc., se décidaient de faire des angles carrés quand ils posaient des tuyaux, ou de faire des siphons inversés, parce que tout d'un coup, quelques plombiers décideraient que, bah non, les enseignants sont comme les plombiers, ils respectent les lois, qu'il y ait un débat chez les plombiers sur la forme des tuyaux, qu'il y ait un débat chez les enseignants ou quelques enseignants sur comment on écrit, pourquoi pas, mais en aucun cas on ne prend l'initiative d'inclure ça dans le programme et de décider d'enseigner de cette façon-là, c'est à mon avis quelque chose qui mériterait d'être sanctionné très fermement.
À vous entendre, on ne changerait jamais rien. Tout
pas
se décide en haut et
pas
se descend. Une pyramide.
C'est un changement d'écriture.
Ils ont le mérite quand même d'alerter.
Non, mais qu'ils alertent, c'est une chose, mais qu'ils ne le mettent pas en œuvre.
On n'a pas milité au sein de l'éducation nationale. Enfin, elles font
des règles obsolètes qu'il faut sans doute changer pour que la langue soit en phase avec les de la société. Quant à vos académiciens, ils ont 90 ans de moyenne d'âge et il y a 3 femmes. Et pour eux,
la sagesse,
pour eux les immortels
bien.
Sont toujours des fleurs.
Oui, enfin, ils ont une qualité qui vaut bien celle de l'éducation nationale, franchement.
Il ne faut quand même pas se leurrer sur ce militantisme-là, qui, comme tous les militantismes de communauté, de communautaristes, exige des visibilités. Ce néo-féminisme-là exige une visibilité un peu partout, dans toutes les sphères de la société. Et également, mais également maintenant dans les mots.
Est-ce que les mêmes...
Si vous êtes rétif au changement,
non, je ne sais pas être rétif au changement, c'est de ne pas être naïf, et de ne pas tomber dans tous les pièges de ce néo-féminisme qui est en... Et je suis d'accord avec Dacier quand il disait que c'était un gaucho-féminisme. En effet, ce n'est rien de plus qu'un mouvement de déstabilisation, de déconstruction, et on n'est pas obligé d'ailleurs d'en parler autant.
Et est-ce que les mêmes s'occupent du port de la jupe avec les femmes dans les cités?
Mais bien sûr, si le vrai féminisme, s'il doit s'appliquer, c'est dans les cités.
Non, non, c'est pas sujet. Il y a des vrais sujets sur la défense de la femme.
C'est magnifique qu'une langue soit vivante et qu'elle veuille rester.
C'est une agression profonde sur la construction grammaticale du français. C'est pas semblant de choisir de faire évoluer des mots pour leur donner un sens nouveau.
Mais une langue n'est pas figée.
Là, c'est remise en cause fondamentalement de la grammaire, de la façon d'écrire. C'est autre chose. Donc, on en fasse un débat, d'accord, mais qu'on ne l'implémente pas dans les classes comme on le fait aujourd'hui, et que les ministères ou le Conseil économique et social ou même l'Assemblée ne le mettent pas
en débat.
Parce que ça devient n'importe quoi.
Je suis d'accord avec vous qu'on en débatte.
Malafaye a dit les choses. Tant que les néo-féministes s'occuperont pas de la condition des femmes dans les cités, tant qu'elles accepteront.
Ça ne les intéresse pas.
Mais regardez, Françoise Guy. Madame Nissen, la ministre de la Culture, comment on lui demande, comment on doit vous appeler, madame? C'est votre avis. quand on lui demande comment doit-on vous appeler, madame le ministre ou madame la ministre, elle répond, madame la ministre, bien sûr. Et c'est une évidence. Eh bien, il y aura d'autres évidences qui vont pénétrer la langue française.
Un jour, on sera pour le port de la voile et ça ira très bien.
Oh, mais vous mélangez tout.
La voile ? La voile.
Bateau.
Et dans un instant, Marine Le Pen va devoir s'expliquer sur ses photos de Daesh. On en débat dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fogiel.
À 19h40, avec Jean-Claude Dacier, Yvan Rioufol, Alexandre Malafaye et Annie Lemoine. C'était en 2015, je vous le rappelle, pour s'en prendre à ceux qui comparaient l'État islamique et le FN, Marine Le Pen tweetait trois photos extrêmement trash avec cette légende Daesh, c'est ça. On avait pu voir un homme en combinaison orange sur les chenilles d'un char, un homme enflammé dans une cage et un corps d'homme décapité. Une enquête avait été ouverte. Cet après-midi, l'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire de la présidente du Front National qui dénonce une décision de basse politique politicienne et la mort de la liberté d'expression. Alors Marine Le Pen doit-elle être jugée pour ses publications ou doit-elle être encore protégée par une immunité? Tout à l'heure, vous avez entendu Clémentine Autain, on ne peut pas la soupçonner d'être proche de Marine Le Pen, qui dénonce le fait qu'on lui ait retiré donc cette immunité parlementaire. Sur les réseaux sociaux, Benoît.
Bah, la première à défendre Marine Le Pen en ligne, c'est Marine Le Pen qui tweet « Mieux vaut être djihadiste qui rentre de Syrie qu'une députée qui dénonce les abjections de l'État islamique. On prend moins de risques judiciaires. » Et Christian la soutient. Il en appelle à la liberté d'expression et au droit d'informer par l'image. Il dénonce un retour de la censure. Pour Salomé, au contraire, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Mais le FN fait bloc. Pour Christelle, cette levée d'immunité parlementaire, c'est parce qu'elle a osé démontrer et dénoncer la barbarie qu'ils sont incapables de combattre. Stéphane s'offusque. Un député ne peut pas dénoncer les exactions de Daesh. Photo à l'appui, c'est du délire. Non, un député ne peut insulter les familles de victimes en montrant des photos de décapitation, lui répond Kira. Ça va les charognards ? Demande Mini avant de citer la famille de James Foley. Nous sommes profondément choqués par l'utilisation qui est faite de notre fils pour le bénéfice politique de Le Pen. Nous espérons que la photo ainsi que les deux autres images explicites soient retirées immédiatement. Et Pamp dit que partager ces images sans penser à l'impact sur les familles des victimes, ce n'est pas dénoncer, c'est être complice. Le frontiste Steve Brivois y voit plutôt une volonté évidente de nuire à la seule candidate anti-système, tellement anti-système qu'elle pleure un privilège que le système lui accorde, l'immunité, ricane Tiber. À tous les FN qui s'excitent, la soutiendriez-vous pareil si c'était votre enfant ? Demande Perti pour finir.
Jean-Claude Dacier, vous comprenez qu'on retire l'immunité parlementaire à Marine
Le Pen ? Je pense que Marine Le Pen et Collard, puisqu'ils sont deux, s'être fait retirer leur immunité parlementaire, je pense qu'une faute a été commise quand on montre sur Internet ces photos. On en voit bien d'autres, hélas, que ce soit d'ailleurs dans les séries européennes ou américaines ou d'autres sites sur Internet montrent des choses peut-être pires dans d'autres domaines ou dans ceci.
En tout cas...
Néanmoins, que des députés français aient cru utile à la défense de leurs idées de mettre ces photos où on voyait James Foley notamment, mais pas seulement, ce journaliste américain qui a été décapité par Daesh, montrer cette photo sur Internet sans l'accord de la famille est une faute politique. Oui. Maintenant, je crois que c'est une faute politique. Maintenant, je suis préoccupé par les intrusions de plus en plus fréquentes de la justice dans le domaine parlementaire. Je pense que ça commence à faire beaucoup. Et je pense que M. de Rugy...
Il y a peut-être une infraction qui a été commise,
non ? M. de Rugy, eh bien écoutez, M. de Rugy aurait été bien inspiré de réfléchir un peu avant de larguer les amarres. Il y a eu l'affaire Fillon, il y en a eu d'autres. Je trouve que ça commence à faire beaucoup, que ce soit une faute politique. Peut-être, sans doute, oui, les avis peuvent diverger, qu'on se précipite à ce point pour larguer et dire à la justice, on vous les donne, faites-en ce que vous voulez, je trouve pas ça tout à fait satisfaisant pour la démocratie. Quant à la liberté d'expression, il y a au moins 250 textes en France qui la limitent. Alors vous savez, la liberté d'expression, oui en Angleterre, oui aux États-Unis, en France, c'est devenu un mythe.
Ouais, je crois d'abord qu'il faut resituer le fait qu'elle répondait à une provocation. C'est-à-dire qu'elle a mis ces images en réponse au fait qu'elle a été assimilée par un journaliste à un moment donné qui disait Daesh.
C'est ce que je viens de dire dans mon lancement.
Voilà, donc ça, non, mais c'est quand même une réponse à une provocation, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand même, il ne faut pas perdre de vue que tout est devenu très compliqué sur un plan législatif. Donc moi, je serais quand même tendance à être un tout petit peu bienveillant sur un problème comme celui-là, parce que la loi, le maquis de la loi en matière effectivement de liberté d'expression est devenu très très compliqué à démêler. Et on sait bien qu'en France, on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais il n'empêche que pour être certain de ne pas se prendre les pieds dans le tapis quand on dit quelque chose à un moment ou à un autre de manière publique, c'est devenu difficile. Est-ce qu'elle savait à ce moment-là, parce qu'elle avait en référence le texte de loi, qu'elle était en train d'enfreindre une règle ? Je pense qu'il faut être assez attentif à ces questions-là et on devrait faire preuve pour le coup d'un peu de bienveillance. Donc effectivement, qu'il y ait après une instrumentalisation contre Marine Le Pen, ça serait évidemment pas surprenant. Tous les coups sont permis pour effectivement essayer de lui taper dessus. Ça, c'est bien.
Oui,
connu.
Bon, je crois que.
Annie avant Yvan, allez-y.
Oui, en 2015, elle était prête à tout pour exister. Elle voulait. Elle était dans dans l'outrance. Elle voulait choquer, elle voulait qu'on en parle, elle voulait faire du buzz. On s'est puni, hein, ce qu'elle a fait par le code pénal. C'est répréhensible, ça peut même coûter très cher. Hein, 3 ans d'emprisonnement et je ne sais plus combien de...
5 ans même, 5 ans.
Voilà, 75 000 euros d'amende. Non, mais c'est répréhensible. On ne balance pas comme ça une image sur Twitter comme elle l'a fait. Elle cherchait à faire le buzz. Bon, ça ne me choque pas.
Elle cherchait à répondre.
Non, alors oui, alors ça va être un peu long, pardon, dans
non,
deux secondes.
Long, non,
pas
secondes.
Long, pas long, pas long. Mais c'est pas tout à fait ce que vous dites. Qu'est-ce qui se passe? C'est Bourdin qui interviewe Keppel, spécialiste de l'islam, sur à la radio, et il lui dit, vous faites le lien, Keppel, entre djihadisme français et poussée du Front National? Et Keppel répond, bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais ce sont deux phénomènes qui participent un peu de la même congruence, ils se ressemblent. Vous voyez, il n'y a pas de... On ne dit pas le FN et le...
Et Daesh, c'est la même
c'est
chose.
La même chose. Ouais. Et il réagit très enfin, vivement.
Il se ressemble, la réaction c'est pas est toute raide. Non plus,
moi, je voudrais juste ajouter une chose, pour aller vite.
Il se ressemble, c'est pas non plus.
Non, mais la phrase est quand même plus longue que
oui,
ça.
Oui, non, attendez. Et je voudrais juste dire une chose pour conclure et pour aller vite. On donne l'occasion à Marine Le Pen de se refaire, ce qu'elle va peut-être finir par réussir à faire. Et elle ne va pas laisser passer toutes les balles très longtemps comme ça. Elle a déjà commencé ce soir.
Yvan.
Oui, moi je trouve
je pense que son problème
cette affaire choquante de A à Z, mais choquante non pas parce que pour ce qu'a fait Marine Le Pen, même si je suis d'accord pour dire qu'en effet, si cela a choqué la famille du journaliste, en effet, il y a eu une maladresse, pas à tout le moins une maladresse, et d'ailleurs elle avait retiré ce tweet-là. Oui. Et je trouve ça vraiment choquant, et je suis d'ailleurs content que Clémentine Autain soit choquée également, que l'Assemblée nationale ne s'intéresse pas davantage à la protection de la liberté d'expression d'un député. C'est la base de la démocratie. C'est la base de la démocratie que de laisser un député s'exprimer librement, que ce soit dans l'enceinte ou que ce soit sur Twitter, a priori, à moins qu'il y ait une nouvelle jurisprudence là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand, si vous voulez dénoncer une barbarie, vous êtes obligé de la montrer. Montrer, c'est monstrer. C'est montrer la monstruosité. Oui, c'est dévisager la monstruosité. Excusez-moi. Elle dénonçait une barbarie. Ah, bah, elle dénonçait la barbarie qui décapite. Comme de la même manière que ceux qui ont délivré les camps nazis ont montré, ont monstré ces corps entassés qui étaient ceux des prisonniers, des juifs et des autres qui avaient été gazés. Comme de la même manière que l'on a montré, que l'on a monstré ce corps d'un enfant noyé pour dire en effet qu'il y avait une détestation à ne pas se préoccuper de ces familles qui passaient par la mer. Et donc, comment ça, oh là là,
il n'y a pas
deux poids, deux mesures. Et je trouve qu'à chaque fois, et c'est le plus grave, qu'à chaque fois que l'on a essayé de désigner les travers, les violences, les exactions que commet l'islam radical, eh bien, à chaque fois, nous nous mettons la tête dans le sable. À chaque fois, c'est la politique de l'autruche. À chaque fois, on dit, on ne donnera pas les noms, on ne donnera pas les visages, on ne donnera pas les circonstances, on ne nommera pas. Et je trouve qu'au contraire, il faut nommer, il faut montrer, afin que l'on comprenne bien quel est cet ennemi épouvantable qui est là. Et je trouve que Marine Le Pen, en l'occurrence, avait raison de dire, Daesh, c'est cela.
Au point d'utiliser l'image d'un journaliste décapité.
Non, je viens de dire qu'en effet, il y avait eu là une erreur qui avait été réparée. Mais
pour le reste, il y a débat, Annie. On peut pas, mais sans arrêt, si on prête des tas d'arrière-pensées à Marine Le Pen, on n'en sortira jamais. On pose mal
mais
le
non,
débat.
Mais le problème de tout cela, de tous ces interdits, c'est précisément de dire il ne faut pas faire le jeu de Marine Le Pen.
Voilà,
c'est pour
c'est
cela qu'on
ne
parle
même,
jamais ouais. de ce qui se passe avec Daesh.
Elle est bien utile.
Et que l'on cherche à dissimuler les exactions de Daesh. Moralité, vous faites le jeu de Marine Le Pen.
Heureusement qu'elle est là, cette chère Marine Le Pen.
Non, mais qui cherche à dissimuler les exactions de Daesh? Je sais pas, mais encore la semaine dernière, un journaliste d'RTL était à Raqqa pour raconter en détail ce qu'il y a vu et faire entendre ce qu'il avait à faire entendre. Personne ne cherche à mettre sous le tapis les exactions de Daesh. On les montre et on les montre au plus près même.
Mais si, vous savez très bien qu'il y a malgré tout, il y a une sorte d'omerta, de censure collective. Alors naturellement, il y a des journalistes qui font leur métier. Mais si, à côté, on n'est même pas capable de désigner le terrorisme comme étant un terrorisme islamiste.
Enfin, je vous rappelle qu'Emmanuel Valls l'a fait à longueur
Il est le seul à le faire. Écoutez, Marco, regardez ce qui se passe autour de vous quand même. Vous ne pouvez, moi, je veux bien que vous êtes dans votre rôle de contradicteur.
Pas du tout, mais je veux bien qu'on dise peut-être pas assez, mais on peut pas dire que ce n'est pas assez. Mais il faut mettre un peu de nuance.
Non, il n'y a pas de nuance dans cette manière qui est de récuser tout lien qu'il y aurait entre l'islam, l'islamisme, le terrorisme et tout ces choses. C'est pas vrai.
On ne peut pas faire n'importe quoi, a fortiori quand on est député.
Allez, on change de sujet, si vous voulez bien, dans un instant. Un dernier, le Louvre, Abu Dhabi.
On refait le monde.
Dans RTL Soir.
Avec Marc-Olivier Fogiel.
Et avec Jean-Claude Dassy, Alexandre Malafa, Yvan Ruffol, Annie Lemoine. Un dernier sujet, le Louvre des Sables, le musée du Louvre, Abu Dhabi. On y était tout à l'heure, donc inauguré par Emmanuel Macron. 300 œuvres exposées dans un décor de rêve conçu par Jean Nouvel. Le coût 1 milliard d'euros financé par les Émirats arabes unis. La concession du nom Louvre apportera au musée parisien 400 millions d'euros. Alors, vous saluez le rayonnement de la France ou vous critiquez le mélange de culture et de business, Alexandre Malafaye?
Oh ben moi, je salue le rayonnement de la France et je pense que tout ce qu'on peut faire de manière générale dans le monde arabe pour faire rayonner nos valeurs ou ailleurs, rayonner nos valeurs, rayonner notre culture et effectivement combattre la présence des Américains et de l'anglophonie tous azimuts, je pense que c'est bien. On a monté en 2006, je crois, l'université Paris-Sorbonne à Abu Dhabi qui a aussi cette même vocation, qui diffuse le français là-bas. Là, on diffuse de la culture, ben, c'est bien.
Ouais. Bon, moi, pour le regard du gardien dans le musée observant un tableau d'Yves Klein représentant le corps, l'empreinte du corps d'une femme nue qui s'est posée sur le tableau bleu, bien sûr, pour le regard de cet homme confronté à cette œuvre d'art moderne dans notre culture à nous, je veux bien qu'ils aient payé 1 milliard. Maintenant, je trouve, si le Louvre n'avait pas besoin d'argent, si on n'avait pas besoin d'argent, on n'aurait pas vendu la marque.
Et donc,
Mais on, leur vend. Mais
oui, vous êtes un petit pays, vous avez beaucoup d'argent, parce que dans les années 60, le pétrole, ça se vendait encore assez cher, et vous avez envie d'acheter des œuvres d'art et de faire un musée. Faites un musée. Faites musée national de Dubaï, ou ce que vous voulez, ou des Émirats Arabes Unis. Pourquoi est-ce que vous voulez la marque Louvre chez vous? Pour attirer des touristes, pour gagner de l'argent, bien sûr. Mais donc, le Louvre, c'est vendu.
Mais grâce à ça, on a fait rentrer de l'argent dans les caisses.
Oui, mais bien triste aujourd'hui que les grands musées ne puissent plus organiser des expositions, que ce soit maintenant relayé. Il le faut d'ailleurs. Et hommage à ceux qui le font, les grands industriels. Non,
c'est le même projet que la Sorbonne.
C'est la logique du monde aujourd'hui.
La Sorbonne, mais faire rayonner la Sorbonne là-bas, c'est la même chose.
Ok, vendons très bien.
Là, on influence, c'est différent.
Attendez, on a vendu des Airbus, on a vendu le Louvre, quelques petits Rafales en plus, prenez-les.
Non, on n'influence rien du tout. Je pense que les Émirats Arabes Unis se sont achetés une danseuse et la France n'est pas une danseuse. Ici, vous avez une opération de communication, une opération de marketing, une opération de business, si je puis dire, qui va rapporter plus d'un milliard d'ailleurs à la France et au Musée du Louvre. Mais l'art là-dedans est très éloigné des préoccupations de l'Émirat Arabes Unis.
Ce sont nos œuvres d'art qui vont être vues là-bas.
Je trouve que l'on se vend, public. Interrogeons-nous de savoir pour quel public l'on se vend. Ce ne sera pas pour le public local, c'est parce que le peuple n'a pas participé. Ça a été donné simplement, d'une manière d'ailleurs très paternaliste, aux Français eux-mêmes qui ont décidé de ce qu'il y aurait dans ce musée, sans se préoccuper de savoir s'il était ouvert à la culture locale. Alors j'entends bien naturellement le dialogue des cultures et tout le baratin qu'on peut avoir autour de cela. Moi, je n'y crois pas. Et je vois qu'en l'occurrence, la France s'est vendue, a vendu son âme, si je puis dire, a vendu ses musées. Et les musées ne se vendent pas. Je suis désolé. Et là, on y vient pour faire du fric. Je comprends très bien que les musées aient besoin d'argent.
Vous avez entendu Emmanuel Macron parler. C'est aussi une façon de lutter contre l'obscurantisme.
Ce qui est vrai aussi.
Je crois que c'est quand même pas mal qu'on ne vende pas que des avions dans la péninsule arabique, quand même.
On peut vendre projets, tant mieux, nouvelle à du boulot, c'est parfait, très bien.
Parlons-nous champagne alors.
Vous n'imaginez pas ce que représente la culture française, à mon avis d'ailleurs un peu surestimée, parce qu'on vit plutôt sur le passé que sur nos résultats d'aujourd'hui. Vous n'imaginez pas, pas seulement dans la péninsule arabique, dans les pays arabes, au Japon, en Chine, partout. La France, c'est la culture.
Et c'est pour ça qu'il y a 80 millions de visiteurs qui viennent chaque année.
C'est très bien. Et alors vous allez encore faire la fine bouche, parce que on va installer quand même. Architecturalement parlant,
c'est magnifique.
C'est
un architecte français, Jean Nouvel.
C'est un architecte français.
C'est un vrai sujet.
C'est un musée qui a une vocation universelle.
Il a fait son œuvre d'art.
Et croisé un peu dans ces pays.
Non, mais ça, on peut se réjouir qu'un architecte français ait fait cette chose magnifique.
Et
ce sont nos œuvres d'art qui vont rayonner là-bas et notre culture.
Et j'ajouterais pour achever Yvan Youfol, pour l'achever, je dirais que je me félicite qu'on retrouve à travers ce geste politique, culturel et architectural, la grande politique arabe du général de Gaulle.
Si vous voulez lutter contre l'obscurantisme, luttez contre les obscurantistes.
Oui, mais on va les éclairer
Mais bien sûr, d'accord avec toi.
C'est pas en tournant autour du pot et en disant des œuvres.
Vous n'êtes pas digne de notre culture qu'on va les aider à sortir de l'enfer.
Mais c'est pas être digne ou pas digne de notre culture, c'est pas ça du tout ce que je dis. C'est pas ça du tout ce que je dis. Je dis qu'il y a une vision coloniale et paternaliste qui ne répond pas au problème.
Allez, merci à tous les quatre. Merci à Jean-Claude Dacier, Alexandre Malafaye, Yvan Youfol et Annie Lemoine. Dans un instant, les dernières infos avec Céline Landreau.
Vous écoutez RTL.